Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et un invité exceptionnel pour clôturer en fait cette semaine de Tech & Co. J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau une star de l'intelligence artificielle qui a fait le déplacement à Paris à l'occasion d'un grand rendez-vous qui s'appelle Raise, dont c'était le premier numéro il y a quelques jours. Il s'agit de Jonathan Ross. Jonathan Ross, bonsoir et merci d'être avec nous.
Thank you so much for having
Merci
me.
Beaucoup de me really recevoir. Je suis here. Vraiment reconnaissant que vous m'invitiez.
Alors, vous êtes le patron de Grok. Grok, on en parle un petit peu dans Tech & Co, dans cette émission dédiée à la tech que vous retrouvez tous les soirs sur BFM Business. Grok est un peu l'accélérateur de l'intelligence artificielle. Pour que vous compreniez bien ce que fait Jonathan et toute son équipe, aujourd'hui, lorsque vous allez chatter sur ChatGPT, vous avez toujours remarqué qu'il y a un temps de latence entre le moment où vous écrivez quelque chose et où la réponse apparaît. Parfois, c'est rapide. Parfois, c'est moins rapide. Et en fait, Jonathan, avec son équipe et avec les processeurs qui, en fait, triturent toutes ces données, arrive à avoir un taux de réponse, une latence qui est quasi instantanée. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça va tout changer dans notre rapport avec l'intelligence artificielle générative. Jonathan, est-ce que c'est ça ce que vous êtes en train de mettre en place?
That's correct.
So, exactement. Généralement, lorsque l'on utilise l'un de ces modèles LLM, on attend longtemps pour avoir sa réponse. Et c'est un petit peu comme à l'époque, vous vous rappelez peut-être ces bruits horribles que l'on faisait avec les modems 56K, et on a un peu l'impression que c'est cela quand on utilise l'IA maintenant, ça prend une éternité. Et ce que l'on fait, on fait arriver le haut débit dans les LLM pour tout le monde. Donc on ne crée pas les modèles. On prend des modèles open source que d'autres ont créés, on les met dans notre matériel et on les fait tourner très très vite. La différence est que c'est beaucoup plus naturel. C'est presque comme quand on fait une recherche ou qu'on utilise un ordinateur et qu'on a une réponse rapide. Ce que cela fait, c'est que cela améliore l'usage, l'engagement avec l'utilisation. Tout ce qui est rapide, on l'utilise plus, c'est plus facile, la charge cognitive est moindre. Et quand on utilise un ordinateur, généralement, on n'attend pas qu'une page se charge et on ne la regarde pas comme ça. Les yeux vont dans tous les sens. Et l'on peut retrouver ce que l'on veut, et donc on peut commencer à poser des questions pour rebondir.
C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au très haut débit, on n'a plus le luxe d'attendre quelque chose, en fait. On veut que notre page Internet s'affiche très vite, on veut écouter la musique très vite, la vidéo très vite, et ça va être pareil pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, cette intelligence artificielle générative, elle l'est dans notre quotidien, mais elle le sera encore plus. Première petite question, vous êtes un spécialiste des processeurs depuis pas mal de temps, parce que avant de créer Grok, vous étiez chez Google, vous avez été l'un des papas en fait du Tensor Unit, qui était cette puce qui était dans les premiers pixels, je crois, c'est ça?
En fait, on a commencé dans les data centers, en fait. Et il y a un autre groupe qui a construit les processeurs qu'on a retrouvés dans les téléphones. Mais en fait, c'était des efforts assez connexes. Nous travaillions en parallèle. Mais ce que je faisais, c'est que je travaillais dans les data centers. Et je crois qu'après un an de déploiement, plus de la moitié de tous les calculateurs de Google se faisaient sur nos processeurs TPU.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a une explosion en fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de Nvidia, qui est un peu la star en fait de cette puissance de calcul. La valorisation de Nvidia est incroyable. Tout le monde veut acheter des puces Nvidia. Vous êtes un petit peu le poil à gratter en quelque sorte de Nvidia pour les concurrencer en quelque sorte avec vos processeurs et Grok.
On n'aime pas se voir comme des concurrents. Nvidia est incroyable pour l'entraînement, la création de modèles. Avant de pouvoir les utiliser, il faut les créer. Et depuis un an ou deux, tous les modèles qui ont été créés sur du matériel Nvidia. Il faudrait que ça continue. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons que ça tourne rapidement lorsqu'on les utilise. Comme tout le reste dans la vie, par exemple, quand vous créez une émission de télé, il faut d'abord la créer, mais ensuite, il faut la distribuer pour que tout le monde puisse la regarder. Nous sommes plus du côté distribution. Alors, les cartes graphiques ne sont pas très bonnes pour faire tourner les modèles. C'est pour cela que c'est si lent. Imaginez que si les pages web se chargeaient si lentement, ça serait très frustrant. Nous, nous sommes environ 10 fois plus rapides pour faire tourner les modèles lorsqu'on les utilise, et c'est beaucoup moins coûteux, et surtout, cela utilise beaucoup moins de puissance. Et généralement, ce qu'il se passe encore et encore, c'est que avant d'avoir les modèles, avant de les faire fonctionner, de les rendre opérationnels, on ne se rend pas à quel point ça va être coûteux de les faire tourner. Et on ne parle pas, on parle vraiment du coût de l'entraînement, de l'impossibilité de tout cela. Mais en fait, une fois qu'on les rend opérationnels, on poste sur Twitter quel est vraiment le coût vraiment faramineux de l'inférence. Et l'inférence, c'est ça qui est l'utilisation du modèle. Peut-être qu'on est un petit peu un poil à gratter pour certaines grosses entreprises, mais il ne faudrait pas que ce soit le cas, parce que plus on permettra de faire fonctionner les modèles, plus il y aura de demandes pour l'entraînement des modèles.
Mais est-ce que Nvidia ne va pas progresser aussi sur votre segment? C'est-à-dire que aujourd'hui, vous le dites, ils sont très bons pour le calcul de cette intelligence artificielle. Vous êtes excellent pour la restituer en fait au public, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que Nvidia ne travaille pas sur un système équivalent au vôtre?
Quand une puce peut faire de l'entraînement, elle peut aussi faire de l'inférence. Quand une puce peut faire de l'inférence, elle peut aussi faire de l'entraînement. La différence, c'est ce pourquoi on l'optimise. Et les cartes graphiques sont optimisées pour l'entraînement. Elles sont excellentes pour cela. Et si vous les avez, vous pouvez aussi les utiliser pour l'inférence. Mais généralement, ce que l'on constate, c'est qu'il faut 10 à 20 fois plus de pouvoir de calcul pour l'inférence. Donc si vous allez déployer 95 à 90% de votre calcul pour l'inférence, il faut quelque chose qui est vraiment optimisé pour cela. Je m'attends vraiment à ce que tout le monde essaye de faire à la fois l'inférence et l'entraînement, mais les architectures de puces sont tellement différentes entre les deux que si vous deviez optimiser l'interconnecteur, ce qui permet aux puces de communiquer les unes avec les autres pour l'entraînement, ce ne serait pas très bon pour l'inférence et vice-versa. Nous ne sommes pas très bons pour l'entraînement. On peut le faire, il y a des clients qui nous utilisent pour cela, par exemple parce qu'il y a de la capacité inutilisée, ils souhaitent la mettre à profit, mais c'est un petit peu du gâchis parce qu'il y a tellement de demandes de calcul actuellement qu'il faudrait utiliser les meilleures puces, ce pour quoi elles ont été conçues.
Cette rapidité que vous mettez en avant en fait avec Grok, et d'ailleurs on a vu des démonstrations, je crois qu'en France on ne peut pas encore utiliser Grok vraiment, il faut s'inscrire, mais la France n'est pas encore ouverte. D'ailleurs, vous savez quand est-ce qu'on pourra utiliser votre modèle en France?
Eh bien, en fait, dans le monde, généralement, on rend cela disponible pour tout le monde. La France a le même accès que les États-Unis. Ce qu'il se passe, c'est qu'on ne s'attendait pas à être aussi populaire. Et donc, il y a un peu plus de 30 jours, nous avions moins de 10 développeurs. Maintenant, 30 jours plus tard, nous avons plus de 77 000 développeurs et 21 000 applications. Donc, ce que nous faisons, c'est qu'en coulisses, nous faisons monter en cadence le matériel. D'ici à la fin de l'année, nous attendons avoir plus de pouvoir de calcul que OpenAI au début de l'an dernier, sans l'aide de Microsoft. Actuellement, on rend cela disponible pour les développeurs pour qu'ils créent des applis. Et il y a beaucoup de demandes pour le déploiement. Et en fait, tout le monde chez Grok a un de ces challenge coins, comme on les appelle, une pièce spéciale. Je ne sais pas si vous la voyez, mais 25 millions de jetons. Grok. Et Grok de l'autre côté. Donc, il faut que ça soit réel, que ce soit instantané et époustouflant. C'est notre devise. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on aura presque autant de pouvoir de calcul que les plus grands hyperscalers ou les grands prestataires de cloud du monde. D'ici à la fin de l'an prochain, on s'attend à avoir environ 16 fois ça, ce qui fera de nous le plus grand prestataire de calcul dans le monde. Pour l'instant, on essaye vraiment de suivre la demande et on vous demande un petit peu de patience alors que l'on fait monter en cadence.
C'est la victime du sujet. Vous êtes victime de votre succès, finalement, hein, si j'ai bien compris. Votre particularité, on l'a expliqué au début, c'est la rapidité en fait de la réponse de ce que vous proposez lorsque on l'envoie une requête. Qu'est-ce que ça va changer dans notre rapport avec l'intelligence artificielle, à votre avis, cette vitesse, cette latence très faible?
Je crois que ce que cela va permettre, c'est que l'IA sera beaucoup plus naturelle. Pour l'instant, elle n'est pas naturelle. Imaginez si je parlais comme cela. Là, déjà, vraiment, ça vous fait frémir et ça, vous ne le supportez pas. Nous avons tout un tas d'entreprises qui construisent des IA de génération de paroles en plus de nos puces. Et à vu la vitesse, c'est une conversation comme on l'a maintenant. Vous pouvez l'interrompre, vous pouvez vous chevaucher, vous pouvez répliquer et ça va rendre les choses faciles. Ça va réduire le frottement, cette charge cognitive où il faut vraiment préparer ses réflexions pour attendre une réponse. Si Alexa, Google ou tout cela, si vous posez une question, eh bien là, il faut attendre 4 secondes. Je ne vais pas vous obliger à faire cela dans notre interview. S'il fallait attendre 4 secondes, là, ça va être instantané.
Oui, on a l'impression de se retrouver dans les duplex, vous savez, des journalistes qui sont par satellite. C'est vraiment le temps de latence est parfois long. Et c'est vrai que ça casse un petit peu la spontanéité, en fait, des échanges qu'on a. Vous parlez donc de cette rapidité d'exécution. Est-ce que cette rapidité d'exécution, elle est aussi dans la vidéo, dans l'image? On voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, ce n'est pas que de l'écrit, c'est aussi la génération d'images, de vidéos. Vous êtes aussi performant dans tous les modèles?
That's right.
And complètement. Actually, aujourd'hui, generating images, créer des images, c'est assez rapide, même avec les cartes graphiques d'aujourd'hui. Ça n'est pas tout à fait assez rapide, mais on va y arriver. Là où il va, et on les appelle les LPU, nos puces. On appelle ça des unités de traitement de langage, LPU en anglais. Mais elles sont quand même très bonnes pour les images, et notamment la vidéo. Donc maintenant, imaginez que vous pouvez taper un prompt, je veux une vidéo d'un robot qui danse sur la table. Ici, ça le fera immédiatement en direct. Ça, c'est quelque chose que l'on pourra rendre possible et ça va vous changer toute l'expérience. Ce qui va changer, ce qu'il va se passer pour nous quand on voit ce que font les clients autour de nous. 21 000 applications. Certaines de ces applications sont des choses qu'on n'a même jamais vues dans les films de science-fiction parce qu'on donne aux gens des outils dont ils ne disposaient pas auparavant et donc ils font des expériences qu'ils ne faisaient pas avant. Complètement inédites et donc on verra des choses comme là, lorsque l'on parle, on parle avec les mains. Moi, je ne suis pas très bon pour cela, mais certains sont très bons. Et maintenant, imaginez que quand l'IA parle, imaginez qu'elle va générer des images, des vidéos en direct pour vous aider à mieux comprendre ce qu'elle dit. Ça vous aidera à mieux appréhender et ça donnera un canal d'information supplémentaire. De façon tout à fait réelle, imaginez que vous pourrez expliquer à des enfants des concepts, pas simplement avec des mots, mais aussi visuellement, en direct. Le langage, c'est aussi de la vidéo, de l'image et tous ces autres canaux de communication.
Il y a aussi des expérimentations qui sont intéressantes avec la robotique. Vous connaissez sans doute Figure.ai qui a posté une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur Twitter qui était impressionnante, où on voyait donc un robot humanoïde qui en fait répondait à un humain sur le tri par exemple de déchets qu'il y avait sur la table, etc. Il y avait cette petite latence qu'on évoquait et que vous faites disparaître. Est-ce que ça va aussi être à votre avis un starter important pour la robotique?
Complètement. En fait, l'une des façons d'appréhender la chose, et là vous parlez de la robotique, vous parlez d'interagir avec le monde réel, de faire des choses, toucher des choses, manipuler des choses. Si vous y réfléchissez, imaginez que vous pourrez porter des lunettes VR. Et s'il y a une caméra sur vos lunettes de réalité virtuelle, il y a toujours un petit retard et vous pouvez mettre ce retard à 1 seconde, 3 secondes. Imaginez essayer de couper des carottes avec un retard d'une seconde, de 3 secondes. Là, ça commence à faire peur.
Ça va être dangereux pour le doigt, je pense.
Bien sûr. Et pour la carotte aussi. Imaginez que vous jouiez au ballon avec votre enfant et que vous ayez un retard d'une seconde. Là, il va falloir pouvoir prédire la trajectoire du ballon, ça n'est pas trop difficile. Mais s'il faut prédire les choses avec 3 secondes d'avance, il faut prévoir où, si l'on va même lancer le ballon, et où. Ça, c'est quasiment impossible. Et là, vous essayez de lire les intentions d'une personne. Quand vous avez ce genre de retard avec la robotique, c'est tout aussi dur parce que le robot interagit avec le monde réel. Si vous avez un tissu souple comme cela, si vous essayez de le faire bouger, c'est difficile parce qu'il y a un petit peu d'effet retour et les robots ont du mal avec tout ce qui bouge comme ça. Ils aiment bien les objets rigides. Et donc, beaucoup de bras robotiques sont très lourds, donc il faut beaucoup plus d'énergie pour les faire bouger, et ça, c'est dangereux. Mais si vous pouvez réagir rapidement, là, vous pouvez manipuler des objets tels que cela, beaucoup plus facilement, des choses souples, des choses qui ont du retour, qui n'ont pas beaucoup de poids, sans grand danger. Et donc, vous pouvez les faire arriver dans votre foyer sans avoir le risque que ce gros bras robotisé frappe quelque chose. Et vous utilisez moins d'énergie avec beaucoup plus d'efficience et avec beaucoup plus de finesse.
Et quand on combine tout ça, en fait, avec la prédiction possible avec l'intelligence artificielle, si on reprend le cas de votre robot, on arrive aujourd'hui à prédire certaines fonctions, ça sera encore plus efficient finalement, non ?
That's correct. In fact,
absolument. Plus efficient, mais aussi vous pourrez faire des choses qui ne seraient pas possibles auparavant. Mais en fait, approfondissons la question. Imaginez ce qui va être rendu possible à l'avenir. L'une des craintes que l'on a autour de l'IA est de savoir si elle va remplacer les emplois des humains. Il y aura des emplois qui vont être remplacés, mais on va créer plus d'autres emplois. Ça ne va pas être amusant pour tout le monde. Et là, il faut simplement accepter que cela va se produire. Mais comment est-ce que l'on rend cela bénéfique pour nous ? Plutôt que d'en avoir peur, il faut rendre cela positif. L'une des choses que l'on verra énormément, c'est que dans les articles que l'on écrit, dans l'histoire, il n'y avait pas tellement d'articles qui avaient des images, simplement quelques-uns. Mais maintenant que l'on peut créer des images, on voit beaucoup plus d'articles avec des illustrations. En fait, maintenant, on passe plus de temps, et donc plus de temps humain est passé, ou plus de travail est fait pour générer des images qu'auparavant. Et ça, on appelle ça le paradoxe de Jevons. Dans les années 1860, quelqu'un a créé un traité sur le charbon. Il s'appelait Jevons. Et donc, il disait que quand on augmentait la performance des chaudières à charbon, eh bien, on augmentait la consommation. Donc, plus on améliorait l'efficience, on consommait plus de charbon parce que c'était plus économique. Il était plus abordable de faire d'autres choses. Et maintenant, c'est abordable de créer des images. Tout le monde peut le faire sans être obligé d'être formé pour cela. Maintenant, donc, les experts font des choses plus intéressantes parce qu'ils peuvent se débarrasser de tout ce qui est vraiment pénible. Selon moi, on peut s'attendre à ce qu'avec plus d'outils fondés sur l'IA, il n'y ait pas assez de personnes pour faire tout ce qui est maintenant rendu possible et abordable. Auparavant, ça aurait été très coûteux pour des humains. Maintenant, il va y avoir une pénurie de main-d'œuvre. Ce qu'il faut faire, néanmoins, c'est s'assurer que tout le monde apprenne les compétences qui vont être rendues nécessaires pour pouvoir remplir tous ces emplois qui n'existaient pas auparavant. L'un des pères fondateurs des États-Unis, Thomas Jefferson, je crois, a dit que la raison pour laquelle nous sommes hommes d'État et guerriers, c'est pour que nos enfants puissent être hommes d'affaires et avocats, pour que leurs enfants, à eux, puissent devenir artistes et reporters ou animateurs. Là, il n'a pas parlé des animateurs télé, mais bon, s'il avait vécu plus longtemps, il aurait dit pour que leurs enfants puissent être influenceurs ou que sais-je. Et donc, il va y avoir de nouvelles professions qui n'existaient même pas dans la science-fiction qu'on imaginait, même pas. Et donc, il faut simplement s'ouvrir à ce changement.
Donc, vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir, en fait, de l'humanité grâce à l'intelligence artificielle. Et une autre question, certains experts disent qu'on est en train de vivre une révolution encore plus impressionnante que celle de l'arrivée de l'Internet. Quel est votre point de vue là-dessus, avec l'intelligence artificielle ?
Je serais plutôt d'accord avec cela. Je ne ferai pas référence à l'IA comme étant le prochain Internet ou le prochain téléphone portable. La raison en est que quand vous prenez Internet, Internet et le portable, c'est ce que l'on appelle des technologies de l'ère de l'information. Vous prenez quelque chose qui existe et vous en faites une copie à haute fidélité identique et vous le distribuez le plus rapidement possible. Internet fait des copies, les envoie. Le portable fait des copies, les envoie, mais dans la main. Mais là, ça n'est pas vraiment différent de ce que l'on faisait avec les presses imprimées. Les presses imprimées, c'était aussi une technologie de l'ère de l'information. L'IA générative est différente. Pour moi, ce serait l'âge, l'ère générative. La prochaine génération sera la GenGen, la génération générative. Et donc, vous aurez une réponse personnalisée à une question en particulier. Il ne s'agit pas de copier, mais de créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ça, en fait, ça va être très difficile à démêler pour nous. Mais une fois qu'on aura cette technologie en main, ça sera très important que tout le monde y ait un accès égal pour qu'on puisse tous apprendre le plus rapidement possible à s'en servir. On va commencer à faire des choses qu'on n'imaginait même pas auparavant.
Jonathan Ross, rappelons que vous êtes le CEO donc, de Grok. Vous êtes en France. Est-ce que vous connaissez bien la France ?
C'est la deuxième fois que je viens. La dernière fois, c'était il y a seulement un mois et demi. Alors, même si je ne connais pas bien la France, mais elle est tout à fait familière pour moi. Et de très bonne façon, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui accourent autour de l'IA ici, et il y a beaucoup d'intérêts. Et il semblerait que la France soit vraiment en avance de phase. Ce que j'ai appris hier soir a été vraiment époustouflant pour moi. La France a un programme délibéré depuis 7 ans dans les écoles pour commencer à apprendre aux chercheurs quelle est la mathématique nécessaire pour être bon dans l'IA. Et moi, j'ai fait le tour du monde. En fait, je vient de faire une tournée européenne et moyenne-orientale de 5 semaines, un petit peu aux États-Unis aussi. Et la France est l'un des pays les plus avancés lorsqu'il s'agit de l'IA. Vous avez une expertise dans le pays, ce qui explique pourquoi il y a tellement de start-up de l'IA qui commencent en France. Et c'est peut-être une coïncidence, mais ce programme d'il y a 7 ans a commencé en même temps. Et donc, il faut pas mal de temps pour que les choses arrivent à maturité, mais en arrivant ici, j'ai rencontré des personnes qui étaient tout à fait au fait des idées et des connaissances nécessaires pour développer l'IA.
Et d'ailleurs, quand on suit votre parcours, vous avez été en contact avec un Français connu dans l'intelligence artificielle, il s'agit de Niel Lequin, qui a été votre prof, c'est ça ?
That's correct.
Absolument. Yann Lequin était mon professeur de premier cycle à l'université de New York et j'ai pris mon premier cours d'IA et d'apprentissage machine avec Yann et il a parlé des réseaux neuronaux convolutionnels. En fait, Yann a gagné le prix Turing, qui est le prix Nobel de l'informatique. C'était l'une des 3 personnes à inventer les algorithmes qui sont vraiment derrière l'IA moderne. Et en particulier, il se concentrait sur la vision et la façon dont on interprète les choses. Et j'ai une anecdote amusante à raconter là-dessus. Yann est absolument génial, mais à l'époque, il n'y avait pas tellement de manuels sur ces réseaux neuronaux convolutionnels. Et donc, il nous apprenait tout cela en cours, et puis on a pris un peu de retard en cours concernant les documents et donc toute la classe a eu une mauvaise note et donc Yann souhaitait pas simplement nous donner la moyenne pour nous faire passer. En fin de compte, moi, j'ai arrêté mes études, je n'ai jamais obtenu mon diplôme et donc quand j'étais chez Google et que j'ai créé ce processeur TPU, Andrew Ng, l'un des grands informaticiens de l'IA, m'a envoyé un mail pour dire Yann Lequin a demandé une bourse pour développer du matériel pour l'IA et toi, tu es expert du matériel pour l'IA. Est-ce que tu souhaites parrainer cette bourse ? Et donc, j'ai reçu le formulaire. Le formulaire a dit, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous auriez un conflit d'intérêt pour parrainer cette bourse pour Yann Lequin ? Et j'ai dit, oui, Yann Lequin était mon professeur à l'école. Il ne m'a jamais rendu ma note, mais il faut quand même lui donner la bourse parce que c'est un génie. Et donc, on a fini par lui donner cette bourse. Et il a fait tous ses travaux. On a eu des interactions. On est resté en contact, en fait, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, alors que l'on se déplaçait tous les deux, on a pu vraiment se rencontrer, mais il est incroyable.
Vous êtes aussi en France parce qu'on murmure que vous pourriez créer une filiale de Grok ici, en France. C'est une solution que vous envisagez ?
Bien sûr que ça nous intéresse, très certainement, parce que le calcul doit être distribué dans le monde entier à cause de la latence, donc il faut pouvoir être dans différentes régions. Nous avons besoin d'un centre de calcul quelque part en Europe, et il y a quelques emplacements candidats, mais la France est l'un de nos préférés pour plusieurs raisons. Pour d'abord, vous préparez l'IA depuis 1 ou 2 ans, donc vous êtes prêt pour faire cela. Ensuite, vous avez une électricité propre et abondante, beaucoup plus que dans le reste de l'Europe. Et puis, Il semblerait qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour déployer l'IA ici. Donc, ce que nous souhaiterions faire, c'est construire un très grand cluster de calcul qui pourrait desservir toute l'Europe à partir de la France. Et donc, vous pourriez être le centre de l'IA, notamment pour l'inférence, quand on utilise les modèles au quotidien à partir de la France.
Et vous êtes ici en France pour vous intéresser justement au financement, aux aides que vous pourriez, dont vous pourriez bénéficier, aux sites que vous pourriez choisir aussi. Quand est-ce que vous allez statuer sur cette décision ?
L'une des choses qui est assez inhabituelle avec Grok, c'est qu'en fait, généralement, nous ne cherchons pas des subventions ou des aides d'État. Nous souhaitons avoir des partenariats. Ce que nous faisons, c'est que nous assurons que quoi que l'on fasse, c'est bénéfique à la fois pour nous et la société. L'une des façons de développer ces partenariats, c'est une propriété à 50-50. Nous développons le matériel et chaque fois qu'on se déploie, les capitaux sont apportés au début. Mais ensuite, nous répartissons nous divisons les bénéfices. Et nous pensons qu'un partenariat entre le public et le privé, le commercial et la société, c'est la meilleure façon de développer tout cela parce qu'il faut être aligné sur ce dont a besoin la société, mais il faut aussi ce soutien commercial afin de pouvoir avoir les moyens nécessaires. Donc à 100%, mais pas des aides, des partenariats.
Ce projet donc de filiale de Grok ici en France pourrait concerner combien d'emplois et quel type d'emploi vous pourriez rechercher ? Des ingénieurs avant tout ?
La façon dont ce serait très utile pour la France, c'est que la plupart des startups que l'on lance aujourd'hui, là, ça va avoir l'air très étonnant, mais la plupart quittent les grandes entreprises technologiques parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir de calcul. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a une startup française qui parle à l'un des cofondateurs et ils ont dit simplement qu'ils n'avaient pas assez de puissance de calcul, donc ils sont partis créer leur propre startup. Et donc, ils ont encore du mal à trouver assez de calcul. Et donc, on ne peut pas avoir de voitures sans pétrole, on ne peut pas avoir d'IA sans calcul. Ce que l'on essaye de pouvoir faire en France, si l'on construit un grand centre de calcul, c'est donner des incitations à toutes ces startups à venir ici, dans le pays. En toute transparence, les data centers n'apportent pas beaucoup d'emplois et les centres de calcul non plus. Mais ce que cela fait, c'est que si vous apportez la puissance de calcul ici, ça vous donne la puissance brute, la ressource brute pour créer ces autres emplois au-dessus. Et c'est cela que l'on souhaite faire. Donc, comme je l'ai dit, nous avons maintenant 77 000 développeurs qui nous utilisent. On pense à déployer beaucoup plus de calcul que cela en Europe. Et donc, vous pourriez créer beaucoup plus que 77 000 emplois en déployant cela ici.
Quand est-ce que vous pourriez prendre cette décision du choix de votre pays d'installation en Europe ?
Là, on parle à beaucoup de gens dans différents niveaux de l'État, en France aussi, des partenaires commerciaux. Donc, nous avons trouvé que c'était très utile jusqu'à présent. Et la décision va être grandement fondée sur le fait qu'on aura assez d'électricité, assez de capital aussi pour lancer ces partenariats et en tant qu'investissement et pas sur une base d'aide publique. Et là, je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'instant. Je ne peux pas donner de date précise, mais nous avons déjà eu ce genre d'accord dans un autre pays. Et l'intention, c'est de développer 1,5 million de puces d'ici à l'an prochain et 10% ont maintenant été affectés pour un autre pays. Donc, on a l'intention d'utiliser notre succès dans cet autre pays comme vraiment plan de départ pour ce que l'on souhaite faire ici en France.
L'Europe a mis en place un système de régulation de l'intelligence artificielle qui dénote un peu de ce qui se passe aux États-Unis. Alors même si elle est plus ou moins régulée là-bas, on sent qu'en Europe, c'est un sujet qui est pris beaucoup plus au sérieux. Quel est votre point de vue sur justement cette IA Act qui est développée chez nous ?
C'est tout à fait nouveau et je n'ai pas vraiment pu lire le projet. Et c'est tout à fait long aussi. Ce pourquoi je milite, c'est que je pense qu'il faut une législation sur l'IA. C'est vrai pour tout ce qui est aussi important et puissant que cela. Mais ce sur quoi il faut se concentrer le plus, c'est s'assurer que l'on préserve des élections libres et équitables. La raison en est que si l'on fait cela, là, on pourra régler tous les autres problèmes en temps et en heure. Aux États-Unis, on ne permet pas d'avoir des financements extérieurs dans les élections, donc il ne faut pas avoir de calcul étranger aussi dans les élections. Donc chaque pays doit pouvoir prendre sa propre décision quant à ses dirigeants et leur propre processus. Il ne faut pas s'ingérer là-dedans. Donc, ce qui est à notre faveur, c'est une législation et des efforts visant à préserver le caractère sacré des élections. Si l'on fait cela, eh bien, on a suffisamment de temps pour savoir ce que l'on pourra faire ensuite. Mais moi, je ne me précipiterai pas pour les autres parties. Je souhaiterais vraiment pouvoir apprendre quelle est la situation. Et ce qui perturbe les gens, là, on a parlé de l'ère de l'information et de l'ère générative. En se concentrant sur les données, là, c'est une approche de l'ère de l'information, ça n'est pas une approche de l'ère générative. L'ère générative, c'est plus une question de calcul, alors que l'ère de l'information, c'est une question de données. On en a besoin. On a besoin d'énergie pour l'IA, il y a aussi besoin de données, mais il faut aussi du calcul, et c'est une chose supplémentaire à laquelle il faut commencer à réfléchir. Ce qui est très important en cela, c'est qu'il faut en avoir suffisamment pour que tout le monde puisse y avoir accès. Nous ne créons pas non plus les modèles, donc nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment directement touchés par la portée de cette législation, et puisqu'on n'est pas directement couvert par cette législation, et puisque nous ne sommes pas experts, je ne souhaite pas donner trop d'avis en cela. Mais là, il faut préserver les élections, et ensuite nous aurons le temps de tout démêler.
Pourquoi avez-vous appelé votre société Grok ? Tout ça résonne en plus avec une actualité assez étonnante, c'est que un certain Elon Musk a décidé de créer aussi une société qui s'appelle Grok, qui est un peu son intelligence artificielle qu'on peut retrouver sur Twitter. Est-ce que c'est un pur hasard finalement, ou est-ce qu'il y a des connexions entre les deux ?
Sans trop entrer dans les détails, parce que nous avons envoyé une lettre à cette entreprise pour qu'ils arrêtent d'utiliser ce nom, mais aux États-Unis, quand on était petit, on a appris quelque chose. C'est vraiment quand on dit Proms, on est propriétaire. Et nous, on a dit Proms sur le nom Grok, mais vraiment, nous sommes propriétaires de la marque commerciale déposée. Ça a créé pas mal de confusion, c'est pour cela que nous avons envoyé cette lettre pour qu'ils arrêtent d'utiliser le nom, et je pense que notre propriété intellectuelle sera respectée.
Donc vous souhaiteriez que Elon Musk et Twitter changent de nom de son intelligence artificielle ? Vous irez jusque-là ?
Nous leur avons fait une recommandation. Le nom Grok vient d'un livre qui s'appelle « En terre étrangère ». Et quand Elon a annoncé qu'il allait lancer une IA avec un nom très semblable, il a dit qu'il avait été inspiré par un autre livre qui est le guide du voyageur intergalactique. Et donc, nous avons commencé à regarder dans ce livre, il n'y avait pas ce nom-là. Donc, nous avons proposé qu'ils utilisent un terme de ce livre, Slurdy Bartfast. Donc, on pensait que c'était plus adapté, ça veut dire robuste mais rapide. Bon, on ne pense pas que ça a été très bien accepté par Musk, mais enfin, compte, la façon dont fonctionne le droit sur les marques commerciales, c'est que en fin de compte, vous n'aurez pas le choix, il va falloir changer. Donc on préférait ne pas venir à là, mais on ne souhaite pas intenter de procès. Et pour une entreprise qui a 7 ans, ça vous donne vraiment une impression de à quel point nous entendons bien avec d'autres, nous cherchons le partenariat, des façons positives de traiter avec les autres. Mais en fin de compte, vu l'état du droit, à un certain moment, il va falloir affirmer ses droits de propriété intellectuelle.
On l'a bien compris. Dernière question, après je vous libère, Jonathan. Concernant votre expertise dans le monde de l'intelligence artificielle, quel est le next step, à votre avis ? Qu'est-ce qui va se passer après l'intelligence artificielle générative ? Est-ce qu'il y a un autre effet waouh qui va impacter notre société sur l'IA dans les mois ou les années qui viennent ?
Je crois que les LLM, c'est vraiment la presse imprimée de l'IA générative. On n'en est qu'au tout début. Vous commencez par la presse, et ensuite il y a tout un tas d'autres technologies. Ensuite il y a Internet, puis le portable. Et donc au sein de l'IA générative, il y a probablement des siècles de technologies supplémentaires qu'il faudra découvrir, inventer et déployer. Mais je crois qu'il y a une prochaine étape dont on parlera si on a encore le temps à l'avenir. Mais l'une des choses qui, à mon sens, devra mériter une certaine réflexion, il s'agit de savoir si l'on doit avoir peur de l'IA. Et je ne crois pas que cela s'impose. En fait, Galilée a eu quelques petits problèmes il y a quelques siècles parce que, simplement, il a inventé et distribué le télescope et les enseignements qu'il en a tirés. L'un des problèmes avec le télescope, c'est que vous pouviez regarder le ciel et on pouvait voir que peut-être nous n'étions pas au centre de l'univers. Peut-être que nous n'étions même pas au centre du système solaire. Mais avec les modèles LLM, de façon tout à fait pratique, tout comme nous nous sommes sentis tout petits quand on a vu à quel point l'univers était grand, les LLM, c'est comme le télescope de l'esprit. Et donc, à bien des égards, intellectuellement, nous nous sentons tout petits comparés aux LLM. Mais comme avec le télescope, une fois qu'on se rend compte à quel point l'univers est grand et vaste, eh bien, on s'y est habitué. Et on a commencé à en voir toute la beauté. Je pense que ce sera la même chose avec nous et avec l'intelligence. Plus on se rend compte à quel point l'intelligence peut être grande, plus on accepte peut-être que nous ne sommes qu'une petite partie de tout cela et qu'il y a encore beaucoup de marge de croissance, on en verra la beauté qu'il y a à cet espace vaste.
Est-ce que malgré tout, on se rapproche d'une intelligence, on va dire, équivalente ou supérieure à l'humain avec ce que... OpenAI est en train de mettre en place, ou est-ce qu'on en est encore loin, à votre avis, OpenAI ou d'autres d'ailleurs?
Et si vous vous demandez si l'on va se rapprocher de l'intelligence artificielle générale, c'est comme cela, c'est le terme pour une IA qui soit aussi intelligente que l'humain. Rappelez-vous qu'il y a encore 2 ans seulement, le test standard pour savoir si une IA était équivalente à l'humain, c'était le test de Turing. Pour savoir si vous parliez à cette IA, est-ce que vous pourriez déterminer si c'était un humain ou pas? Eh bien, à ce stade, on s'est rendu compte que ce test n'était pas suffisant, parce que, en fait, vous pouvez parler à une IA.
Et,
par exemple, il y a un bot fondé sur la voix qui utilise notre technologie de LPU, qui est presque impossible à distinguer de l'humain. En fait, si on l'utilise, les gens entrent dans la pièce et ils pensent qu'ils interrompent un appel téléphonique avec une autre personne. Et donc, on se demande quel sera le prochain test de l'IA, parce qu'on voit les limites de ce que peut faire l'IA. Donc il y aura d'autres évolutions, nous n'y sommes pas encore. Mais nous en sommes à un stade où beaucoup de choses qui nous semblaient être réservées à l'humain vont être le domaine des machines également. Ça ne sera pas la première fois. Croyez-le ou non, mais quand on a inventé la calculatrice, eh bien, au début, on se pensait, il n'y avait que l'humain qui pouvait faire de l'arithmétique. Et dans quelques années, on aura l'intelligence générale. Et quand le premier grand maître des échecs a été battu par une machine, on pensait qu'on n'en est qu'à quelques années de l'intelligence générale. Mais le langage est tellement humain que l'on pense qu'on y est quasiment, mais il y a encore un tout petit peu de marge de progression, il n'y est pas vraiment.
Mais c'est vrai qu'avec une calculatrice, on n'a pas de discussion véritablement, on n'a pas d'échange, alors qu'aujourd'hui, avec une IA et votre capacité de calcul qui nous permet d'avoir une discussion, on va dire, quasi instantanée et spontanée, on se rapproche en fait de ce qu'on est. Et ça peut-être créer de l'empathie, de la bienveillance et parfois même des sentiments. On se souvient du film Heure. Est-ce que vous pensez que ce film va rester longtemps quelque chose du domaine de la science-fiction?
The word Grok.
Eh bien, le mot grok, ça veut dire comprendre quelque chose profondément et de façon intuitive, avec empathie, dans ce livre. Et donc, dès qu'on a lancé grok, ça a toujours été l'intention. Ce qui est intéressant, c'est que si vous y réfléchissez, il n'y a pas de magie dans l'empathie. Le cerveau humain interprète les signaux et ensuite vous donne une impression de ce que ressent probablement la personne en face. Parfois, on a raison, parfois on se trompe. Comme dans tout ce que nous faisons, mais on ressent ça au très fond de son être. comme si ça vous arrivait à vous-même. Et actuellement, ces modèles LLM ne ressentent pas ça au tréfonds de leur être. Et c'est ça la différence entre le cognitif et le viscéral. Mais aussi, en tant qu'humain, vous pouvez entendre une réponse, une histoire sur quelqu'un d'autre, et cognitivement, vous pouvez ressentir de l'empathie avec cette personne. Actuellement, les modèles peuvent le faire, et c'est très utile pour des personnes, pour leur permettre de comprendre les sentiments et les émotions d'autres. Ce que je recommande généralement de faire, c'est quand vous recevez un mail ou que vous avez une conversation avec quelqu'un et que vous pensez que cette personne... que cette personne ne vous a pas bien compris ou qu'il a fait quelque chose simplement pour vous créer des difficultés, prenez l'email, saisissez-le dans un modèle LLM pour lui demander « Que pensez-vous que ressent cette personne ?» Et généralement, on va vous donner une bonne réaction. Et là, vous vous dites « Ah, mais bien sûr, j'aurais dû y penser. » D'une certaine façon, vous pouvez les utiliser pour essayer de comprendre. Mais je pense que la plupart des conflits entre personnes viennent du fait qu'on a tendance à trop généraliser. Il n'y a pas assez de subtilité et de nuance. Vous ne comprenez pas vraiment ce par quoi passe cette autre personne, quelle est leur situation particulière. Et alors que les LLM deviennent de plus intelligents, ils apportent plus de subtilité, de nuance, de curiosité. Et ce que j'espère, c'est que cette prochaine génération, cette Gen Gen de modèles LLM, sera consciente de plus de différences et de distinctions entre les différentes situations pour mieux comprendre l'humain en face, pour mieux traiter ces situations simplement, et donc on pourra mieux s'entendre les uns avec les autres parce qu'il y aura plus de compétences et d'empathie.
Jonathan Ross, merci beaucoup d'être passé sur BFM Business, sur le plateau de Tech & Co, pour nous expliquer ce que vous faites et votre vision de l'intelligence artificielle. C'est passionnant. Rappelons que vous êtes le CEO de Grok, et si vous venez en France, vous serez le bienvenu. Merci encore.
Bien sûr que j'aimerais beaucoup revenir. Merci.